Bonjour, bonjour et merci de regarder Questions politiques et d'écouter Questions politiques. Si vous êtes derrière votre poste de radio, le rendez-vous du week-end de France Inter, du journal Le Monde et de France Info. Questions politiques une semaine avant le premier tour des élections régionales, dans un climat politique tendu, délétère, disent certains, mais surtout très difficile à lire. Et si nous vivions la dernière étape de la décomposition politique commencée en 2017, à un an maintenant de la prochaine élection présidentielle, compliqué de mesurer les rapports de force, compliqué de comprendre aussi les grandes lignes de clivage qui parcourent la scène politique française. Alors une émission pour analyser, décrypter les enjeux auxquels est confrontée notre démocratie. Et pour le faire, jusqu'à 13h, deux invités, ils sont tous les deux spécialistes de la vie politique française et de l'opinion. Jérôme Jaffray, directeur du CECOP, le Centre d'études et de connaissances sur l'opinion publique et chercheur associé au CEVIPOF, et Antoine Bristiel, qui est chercheur en sciences politiques et directeur de l'Observatoire de l'opinion de la Fondation Jean Jaurès. Pour intervenir, le hashtag #QuestionPol ou l'application mobile France Inter.
France Inter, question politique, Ali Badou.
Antoine Bristiel, Jérôme Jaffray, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Et bienvenue, on compte sur vous, nous avons beaucoup de questions à vous poser, nous avons aussi l'idée, peut-être folle, que l'on peut dissiper les vapeurs, la brume, le fog, comme diraient les Anglais, qui rendent la carte et la vie politique française si compliquée à comprendre. Pour vous interroger, l'équipe de Questions Paul, Nathalie Saint-Cricq de France Télévisions. Bonjour Nathalie.
Bonjour à tous.
Françoise Fressos du journal Le Monde, bonjour Françoise.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
Et Karine Bécard de France Inter, bonjour Karine.
Salut tout le monde.
Si on devait démarrer, Jérôme Jaffray, Antoine Bristiel, par une idée de ce que vous pensez voir dominer dans la vie politique française, en une phrase, en quelques mots, qu'est-ce que vous diriez, Jérôme Jaffray ?
Écoutez, ça n'est pas un tableau très réjouissant, hein. C'est la distance et une forme de désespérance et une absence d'attente de solutions venant de la politique. La distance, elle va se traduire avec une abstention massive au régional, très vraisemblablement. On s'installe dans le fait que l'électeur dominant maintenant a la figure de l'abstentionniste, c'est quand même le contraire du fonctionnement démocratique normal. Une forme de désespérance d'une part de la société qui se lie dans les événements récents de la gifle et de l'enfarinement.
On va y revenir.
On va en reparler, j'imagine. Et donc l'absence d'attente, parce que très peu de Français pensent que le résultat de la présidentielle de l'année prochaine permettra d'améliorer les choses. Or, c'est la fonction de la présidentielle dans ce que voulait le général de Gaulle sous la Ve République. C'était le rendez-vous qui permettait de régler des problèmes et de dessiner les orientations du pays. Et ça, on ne le voit pas apparaître avec, évidemment, le risque de résultats totalement inattendus ou bouleversant le système politique. Là, on en reparlera aussi, j'imagine.
Évidemment, vous avez tracé la feuille de route de l'émission en une phrase, Antoine Bristiel. En quelques mots, qu'est-ce qui domine, selon vous, la vie politique aujourd'hui ?
Très clairement, ce qui domine la vie politique, c'est un climat de défiance qui est extrêmement important envers les institutions politiques et envers les responsables politiques. Et c'est aussi une sorte de paradoxe parce que on voit que finalement, les Français sont assez intéressés par la politique, ils sont assez intéressés par la vie du pays. Et néanmoins, il y a justement cette déconnexion.
Comment se mesure l'intérêt d'ailleurs ?
On peut déjà leur demander, est-ce que vous êtes intéressés par la politique ? Est-ce qu'au moment de l'élection, c'est quelque chose qui vous intéresse ou ce genre de choses ? Et donc justement, il y a cette déconnexion entre des personnes qui sont intéressées par la politique, notamment les nouvelles générations, contrairement à ce que l'on dit, et puis pourtant cette très forte défiance envers les institutions, les manières classiques de faire de la politique.
On va en parler, notamment de ce qui s'est passé cette semaine, Françoise Fressos.
Quand vous parlez de distance, d'abstentionnisme, de défiance par rapport à la politique, est-ce que vous y voyez, au fond, le fait que le pari d'Emmanuel Macron, qui était un renouvellement profond de la vie politique en 2017, a échoué, ou vous pensez que c'est quelque chose qui vient de beaucoup plus loin et qui, au fond, affecte toutes les partis politiques ?
Je dirais les deux choses, Françoise Fressos. C'est-à-dire qu'effectivement, la décomposition politique dont parlait Ali Badou, elle continue, elle se poursuit, et je ne suis pas sûr que nous en soyons à la dernière étape aujourd'hui. C'est cela qui est frappant. Et en même temps, la promesse de renouvellement d'Emmanuel Macron n'a pas été tenue. C'est-à-dire que le président n'a pas de force derrière lui. Normalement, quand un président se déplace, voyez-vous, autrefois, il y avait beaucoup de militants, d'admirateurs qui étaient là pour l'accueillir, l'applaudir, le soutenir, et quelqu'un d'hostile...
Même si c'était organisé.
Et, alors, il est arrivé, en particulier, sous le prédécesseur de François Hollande,
que ce soit assez
organisé en termes de cars qu'on amenait. Mmh. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Sous Mitterrand, sous Chirac, et je ne remonte pas au général de Gaulle, vous aviez vraiment une foule qui était là pour soutenir avec des militants, des enthousiastes. Et si quelqu'un d'hostile était dans la foule, il était immédiatement encadré, mis à part. Il ne pouvait pas jouer un rôle dans la foule. Là, on a quelque chose de différent qui est la disparition, tout simplement, des militants, des soutiens politiques. Où sont les marcheurs qui viennent applaudir Emmanuel Macron quand il se déplace en province?
Concernant la violence, un certain nombre d'éditorialistes ou de personnages se sont... On poussait des cris d'orfraie en disant que ça devenait terrible et que cette violence était insupportable. Quand on regarde l'histoire, je ne vais pas remonter à Ravaillac, mais le mouvement Poujade, l'OAS, avec le général de Gaulle, les anarchistes sur Clémenceau, les deux présidents de la République assassinés. Est-ce que finalement, ce n'est pas simplement la violence avec les réseaux sociaux et les images en plus aujourd'hui, ou alors c'est un phénomène qui est spécifique?
Antoine Bristial, et vous pensez évidemment, Nathalie, à l'épisode de la gifle, aux enfarinements des derniers jours.
C'est sûr que les réseaux sociaux, même les chaînes d'infos, continuent aussi à repasser toujours ces genres d'images spectaculaires, etc. Ça va avoir vraiment tendance à mettre l'accent sur ces éléments qui sont justement spectaculaires et qui attirent l'œil. Après, sur le climat de violence, ce qui est sûr, c'est que sur la question du populisme, alors défini comme étant justement une opposition assez nette entre le peuple qui serait par essence vertueux et des élites qui seraient, elles, par essence corrompues, des élites politiques, des élites économiques, etc. On voit qu'on a une vraie problématique à ce niveau-là. Et on a une vraie sensation de déconnexion au sein de la population par rapport aux différentes élites politiques. Et c'est ce qui provoque justement le fait que on peut s'en prendre maintenant physiquement à eux. On a cette sensation-là au sein de la population. Et c'est pour ça qu'on voit
Donc on est plus violent ou c'est la violence plus l'image?
Jérôme Jaffray.
Ce qui m'apparaît, c'est une crise profonde du fonctionnement du système politique à travers ça. Ce qui m'a intéressé, au-delà des gestes épouvantables qui ont été commis, mais pas dramatiques, Dieu merci, un jour, nous aurons peut-être des gestes dramatiques. C'est ça qui est le plus inquiétant. C'est les explications qui ont été données par les auteurs de la gifle ou de l'enfarinement. L'auteur de la gifle, il a déclaré devant le tribunal, devant le juge, « Je ne trouve pas qu'Emmanuel Macron ait été élu par l'ensemble de la nation. » C'est la remise en cause de la démocratie représentative, ni plus ni moins. Sauf dans les dictatures, personne n'est jamais élu par l'ensemble de la nation, hein, dans des votes libres. C'est la notion de majorité, c'est la notion de droit d'une majorité dès lors qu'elle respecte les minorités à mener sa politique qui est en cause. C'est la notion de durée de pouvoir. Et là, on voit combien les gilets jaunes ont impacté en profondeur la société française. Le thème du RIC, du référendum d'initiative citoyenne, c'est derrière cela. Quant à
Mais vous ne répondez pas, justement, à Nathalie, parce que ce que disait Nathalie, alors, l'écoutez, on se disait finalement que c'était moins grave aujourd'hui que ce qui pouvait se produire avant, et qu'entre l'OAS qui fait un acte terroriste contre le général de Gaulle et une gifle, bon, il y a peut-être une différence de degré et de nature.
Vous me poussez au bout. Le général de Gaulle, l'attentat du petit Clamart, d'août 1962, il suit de 4 mois un référendum sur l'Algérie gagné à 90% de oui par le général de Gaulle. C'est-à-dire que tout le pays est derrière de Gaulle et qu'il y a les forcenés de l'OAS qui veulent lui régler son compte. C'est tout. C'est pas du tout la même chose qu'une situation dans laquelle celui qui gifle ou celui qui enfarine, c'est parce que c'est une crise profonde du système. L'enfarineur, d'un mot, il a dit « ça aurait pu être n'importe qui de Mélenchon à Le Pen ». Alors là, c'est le rôle de l'élection et du choix électoral qui est profondément mis en cause. Si c'est n'importe qui, c'est donc qu'il n'y a aucune solution, aucune possibilité. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de Français qui partagent ces façons de voir. C'est ça qui fait crise de la démocratie.
La question de la légitimité, malgré tout, se pose, parce qu'on a quand même, et même pour la présidentielle, des niveaux d'abstention qui augmentent, même si ça reste une élection à laquelle les Français participent encore beaucoup, mais pas à des niveaux comme on a pu connaître ces dernières décennies, on va dire, pour être absolument large. Mais donc, il y a quand même un taux d'abstention qui est fort, et on a aujourd'hui un président, et notamment Emmanuel Macron, qui est élu, enfin pas élu, mais en tout cas au premier tour, qui remporte seulement 24% des voix. Donc effectivement, la légitimité, malgré tout, se pose. Comment lutter contre ça? Il y a trop de candidats.
Antoine Bristial, on va y venir à la question de la présidentielle, mais pour répondre à Karine.
En tout cas, sur la question du mode de scrutin, il y a un sujet français, parce qu'on voit que les niveaux de défiance dans les institutions politiques sont plus importants en France que chez beaucoup de nos voisins européens. Et à ce niveau-là, on se rend compte quand même que, par exemple, l'élection d'Emmanuel Macron, on peut dire, bon, il est extrêmement légitime, au second tour, élu avec quasiment 2/3 des voix. Mais derrière, si vous enlevez les personnes qui n'étaient pas inscrites sur les listes électorales, celles qui se sont abstenues, celles qui ont voté blanc, celles qui ont voté pour Marine Le Pen, et parmi celles qui ont voté pour Emmanuel Macron, celles qui disent « j'ai voté contre le projet de Marine Le Pen », vous arrivez avec 6% du corps électoral.
Donc derrière,
6%, oui.
Sur les 46 millions de personnes qui...
Oui, derrière, ça arrive quand même à quelque chose... Enfin, vous êtes sur quelque chose d'extrêmement réduit. Alors, c'est sûr que derrière, de pouvoir garantir l'assentiment de la population quand vous mettez en place des politiques, en période de crise tout particulièrement, ça va être quand même extrêmement compliqué. Mmh. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment un sujet avec le système électoral français que l'on ne retrouve pas forcément dans les autres pays.
Alors, justement, on va en parler à propos des régionales. Encore une question sur ce qui s'est passé cette semaine et ces derniers jours, Jérôme Jaffray. Après, à propos de la gifle, ce qui est assez frappant, c'est que la classe politique, dans son unanimité, a critiqué ce geste-là, s'en est indignée. Mais lorsqu'on entend le président de la République lui-même, il a voulu en minimiser la portée. Il a voulu dire que ce n'était pas si déterminant. Comment expliquer cette contradiction-là entre le principal intéressé qui cherche à en faire un incident isolé et les autres, quasiment tous les autres, qui ont vu dans cette gifle une atteinte à la démocratie?
D'abord, moi, je dirais que Emmanuel Macron, comme Jean-Luc Mélenchon, ont très bien réagi à l'événement. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron a tout de suite refoncé pour aller saluer la foule et parler et continuer sa journée normalement. Aux États-Unis, le président des États-Unis, il était renvoyé à la Maison-Blanche par le service de sécurité dans les 5 minutes qui suivaient. Hein? Donc, Jean-Luc Mélenchon a expliqué superbement hier sur les antennes que le blanc lui allait bien. C'était magnifique. Ouais. Et c'est finalement l'intérêt de chacun de minimiser l'atteinte qui lui est portée. Si Emmanuel Macron dit « je suis tellement impopulaire et tellement détesté que quand je me déplace en France, je risque… » Non. Le courage, vous savez, le général de Gaulle en 62, toujours après cet attentat du petit Clamart, il est allé prendre son avion derrière, il a passé en revue la petite troupe qui l'attendait et il a vu sa voiture qui était criblée de balles et il a dit « ils tirent vraiment comme des cochons ». C'est préserver la démocratie aussi que de ne pas donner une importance trop excessive à un événement pareil.
Et à l'inverse, les médias donnent trop d'importance à ce genre de situation.
Je ne dis pas ça parce que le fait que la classe politique unanime ait protesté, moi je trouve ça positif. Je trouve ça extrêmement positif. C'est-à-dire qu'en de Mélenchon à Le Pen, on a dit que ce n'était pas acceptable, que le président, on le combat politiquement, mais on ne le frappe pas.
Antoine Roussel.
Je pense qu'à ce niveau-là, il y a deux choses. La première, c'est dans ce que dit Emmanuel Macron, c'est bon. Il veut protéger l'institution, de dire qu'effectivement, si le président de la République n'avait plus la possibilité d'aller en France parce qu'il avait... Il avait ce danger à chaque instant, ça serait problématique. Et puis il y a aussi quelque chose qui est plus en termes de communication politique, c'est-à-dire il ne faut pas apparaître à un an de l'élection présidentielle comme étant détesté par des Français qui devront potentiellement le réélire l'année prochaine. Donc ça, c'est son intérêt à lui et pas seulement l'intérêt en termes de président de la République.
François Fressoz, on va passer au régional.
Ce genre d'événement, ça met quand même un coup de projecteur et ça accroît l'angoisse sur, au fond, la résistance du système politique. Mais est-ce que du coup, on n'est pas un peu déformé? Est-ce qu'il n'y a pas une majorité silencieuse de Français qui, au fond, peut-être ne sont désengagés, mais ne voient pas d'hostilité majeure à l'égard du système? Quel est le paysage politique tel que vous le voyez?
Écoutez, pour la société française, moi je dirais qu'il y a au fond trois groupes. Hein, il y a pour simplifier, il y a un groupe de désespérance, c'est-à-dire au fond qui considère que le système politique est à mettre à bas et que la colère est quelque chose qui domine. Hein, dans les mots, les émotions, on insiste de plus en plus dans les études d'opinion sur les émotions, le mot colère qualifie ce groupe. Il y a un autre groupe qui s'inquiète, lui, de ce qu'il va jusqu'à appeler le délitement de la société. C'est-à-dire l'absence de respect total de l'autorité, des violences et du fait qu'on n'arrive pas, que quand des bandes d'adolescents, qu'il y ait des meurtres d'adolescents, est quelque chose qui bouleverse profondément le pays. C'est-à-dire qu'on se dit, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et l'autorité des parents, ça va sur tout le système, hein, c'est pas seulement l'autorité. Donc, le sentiment d'un délitement. Et puis, effectivement, vous avez un entre-deux qui est important. C'est le juste milieu dont on parlait autrefois dans nos livres d'histoire, consistant à dire, à essayer de frayer un chemin, si vous voulez, pour trouver. Et par exemple, la stratégie de Marine Le Pen, d'un mot, c'est quand même la jonction de cette France de la désespérance d'un côté et de cette France qui craint le délitement de l'autre. Il faut que le groupe central soit assez puissant pour trouver une force pour s'exprimer sur ces sujets.
Antoine Bristiel, puis Nathalie Saint-Cricq.
Pour compléter les propos de Jérôme Jaffré sur un angle un petit peu différent, je pense qu'on ne s'est pas bien rendu compte finalement de la mutation qu'on a pu avoir depuis les années 80 et les années 90, qui perdure encore aujourd'hui, de la façon dont les Français, même les Européens, voient la façon dont on doit faire de la politique. On n'est plus dans une posture déférente par rapport aux institutions politiques, par rapport aux partis politiques, par rapport aux institutions de la République. Et on a cette volonté, au sein de la population, de vouloir contrôler beaucoup plus directement ce qui se passe au niveau politique. Ça ne veut pas dire une remise en cause complète de la démocratie représentative, mais ça veut dire d'associer à la démocratie représentative des mécanismes de contrôle beaucoup plus importants sur les élus. Et d'ailleurs, quand Jérôme Jaffré parlait du RIC au sein du mouvement des Gilets jaunes, c'est quand même extrêmement frappant de voir qu'un mouvement qui démarre sur une contestation de taxes oui. arrive avec principale revendication le référendum d'initiative citoyenne. Donc associer finalement quelque chose de participatif à la démocratie représentative. Et ça, cette mutation dans la façon dont les citoyens considèrent la politique, considèrent la façon de faire de la politique, c'est quelque chose que je pense les responsables politiques n'ont pas suffisamment compris.
Face au délitement, je ne suis pas général qui signe une tribune de Valeurs Actuelles dont vous parliez, ou face à la violence dans la rue, est-ce que vous considérez qu'il y a une responsabilité de certains politiques qui ont soit joué avec le feu, en appelant au peuple directement, en appelant à la violence, soit d'autres en explosant le paysage politique, c'est-à-dire en n'ayant plus un certain nombre de partis qui structurent les idées et qui permettent aux citoyens de s'exprimer de façon normale en votant plutôt que d'exprimer leur colère.
Antoine Bristiel.
En tout cas, ce que l'on sait en sciences politiques, c'est que l'offre politique, les partis politiques structurent la vie politique. C'est pas seulement des demandes qui émaneraient de la société qui ne seraient un peu créées ex nihilo. Et en effet, la façon dont les représentants politiques vont saisir de certains sujets, là, par exemple, avec la thématique de la sécurité, à force de mettre tout le temps en avant cette thématique-là, ça devient forcément un sujet et ça devient la façon dont dont les citoyens considèrent la politique et ce, à l'aune de quoi ils regardent les représentants politiques et ce pourquoi ils jugent les représentants politiques. Donc effectivement, il y a toujours cet effet de structuration du champ politique qui est provoqué par les responsables politiques.
Mais quand François Ruffin dit par exemple que Emmanuel Macron, ça finira comme Kennedy, est-ce que c'est pas aussi une façon de... C'est certain de... Pas que la France Insoumise, dans d'autres... Est-ce qu'il n'y a pas aussi une violence qui vient de...
Oui, mais c'est, si vous voulez, c'est un dérèglement du système qui va plus loin. Alors, bien sûr, vous citez là la France Insoumise ou le Rassemblement National en disant qu'ils jouent un petit peu sur ces peurs et qu'ils essayent de monter les citoyens contre le système politique. Votre invité de la semaine dernière, dont l'émission a fait quelques bruits,
Jean-Luc Mélenchon.
Lui,
le bruit et la fureur, c'est normal.
Se perçoit désormais, je dirais, comme le candidat anti-système, considérant que Marine Le Pen est rentrée en partie dans le système pour essayer de trouver le compromis qui lui permette de gagner un second tour de scrutin. Il essaye, lui, d'être le candidat anti-système et parfois il pousse le bouchon trop loin. Mais prenons un autre exemple. Emmanuel Macron, dont on peut tout dire sauf qu'il est populiste, il essaye de trouver de nouvelles formes de la démocratie, mais il promet trop, il ne tient pas assez. La Convention citoyenne sur le climat en est de ce point de vue un exemple. En disant qu'il passerait sans filtre les propositions, la formule était totalement erronée. La formule juste aurait été de dire « nous examinerons vos propositions, le Parlement devra trancher, mais nous écouterons vraiment avec beaucoup d'attention ce que vous dites ». À partir du moment où il a fait cette promesse, eh bien, le sentiment de beaucoup de gens, c'est qu'on nous a fait participer, démocratie participative, comme disait Antoine Bristiel, comme complément de la démocratie représentative, mais qui là n'aboutit pas à tenir la promesse qui a été faite.
Et finalement, l'impression que ça nous donne, c'est qu'il n'y a plus de débat d'idées, il n'y a plus de débat tout court. Et c'est pour ça aussi que ça laisse un espace pour toute cette violence, pour toute cette désespérance, pour toute cette défiance dont vous parlez, non ?
Oui, et ça tient, si vous voulez, aussi au fait que l'élection présidentielle de l'année prochaine, elle se structurera sur quoi ? quoi ?
Exactement.
C'est ça la grande question. Alors, je vais vous dire très simplement, elle va se structurer autour du fait de savoir si Marine Le Pen peut gagner ou ne peut pas gagner la présidentielle.
N'allez pas plus vite que la musique. Avant l'élection présidentielle, je tiens à notre plein de route, et vous l'avez d'ailleurs indiqué vous-même, Jérôme Jaffray. Il sera d'abord question des régionales. Jérôme Jaffray, directeur du CECOP, le Centre d'études et de connaissances sur l'opinion publique, chercheur associé au CEVIPOF, et Antoine Bristiel, chercheur en sciences politiques et directeur de l'Observatoire de l'opinion de la Fondation Jean Jaurès, sont nos invités.
France Inter, Ali Badou, question politique.
Alors il y a donc les élections régionales, nous n'allons pas les enjamber comme le font pourtant beaucoup de responsables politiques. Parlons-en justement puisqu'elles sont, bon, pour le coup, un indicateur de ce qui rend illisible aujourd'hui la scène politique française, avec des alliances invraisemblables, des projets qui peuvent être possibles dans une région, impensables dans l'autre. Françoise Fressoz.
Et puis aussi ce paradoxe où au fond vous dites on risque une abstention record compte tenu du climat et tout le monde veut nationaliser ce scrutin. Alors vous, comment vous positionnez par rapport aux élections régionales ? Est-ce qu'il faudra en tirer ou non une leçon nationale ?
Antoine Bristiel.
En tout cas, oui, il faudra en tirer une leçon nationale certainement. Mais ce qui est frappant, c'est que sur l'abstention, en effet, on a à l'heure actuelle à moins d'un Français sur deux qui dit qu'il se déplacera pour aller voter dans ces élections régionales.
Aux précédentes, on était à peu près au même niveau.
On était à peu près au même niveau, un tout petit peu supérieur. On est un peu dans les mêmes échelles, oui. Mais les principales raisons qui sont avancées justement pour dire pourquoi on n'ira pas voter au régional, ben c'est parce que la campagne porte soit trop sur les stratégies d'alliance, soit trop sur la personnalité des candidats, soit trop sur l'impact des régionales sur la prochaine présidentielle. En gros, on parle seulement de jeux politiques, on parle pas suffisamment d'enjeux politiques.
Les
candidats et les médias d'ailleurs qui peuvent relayer toutes ces questions autour des régionales. Et à force finalement de... Et d'ailleurs oui, quand on parle d'enjeux politiques autour des régionales, on parle de sécurité, alors que c'est pas une compétence qui est celle des régions. Donc c'est là où c'est extrêmement paradoxal.
Mais quand vous dites on parle de sécurité, ce sont les candidats eux-mêmes qui ont fait de ce thème le thème majeur d'élection, alors que ça ne relève pas des compétences des régions.
Et ça, je trouve que c'est la stratégie, en l'occurrence, de vouloir concurrencer absolument le Rassemblement national, la stratégie de Xavier Bertrand de vouloir se dissocier d'Emmanuel Macron et de vouloir également être très dur sur ces questions de sécurité, et puis la volonté des autres partis de ne pas apparaître à la ramasse également sur ces questions d'insécurité, ça se fait qu'on a un débat public qui est saturé par les questions d'insécurité, alors qu'on voit que les thématiques de redistribution, d'inégalité, des thématiques plus économiques, c'est également des enjeux qui préoccupent énormément les Français, et pourtant on en parle.
Les questions d'éducation, les questions de transport, Jérôme Jaffray.
Oui, pour répondre à la question de Françoise Fressoz, moi je dirais qu'à la fois, ça n'est pas la présidentielle des régionales, il ne faut pas confondre, ça n'est pas le tour de chauffe de la présidentielle, mais c'est quand même un élément préparatoire au scrutin de l'année prochaine. Alors, ce n'est pas la présidentielle, d'abord l'abstention massive. La présidentielle, Karine Bécart, reste quand même le scrutin où beaucoup, beaucoup de Français participent, de l'ordre de 80% jusqu'à la présidentielle.
Mais ça s'effrite régulièrement.
Pas tant que ça, non. Mais bon, okay. Nous regarderons les chiffres ensemble si vous voulez. Donc il y a une différence, il y a à peu près, d'après les calculs que j'ai pu faire, à peu près 15 millions d'électeurs qui ne vont pas voter à ces régionales et qui pourraient, si on reste sur les taux habituels, aller voter à la présidentielle. Excusez du peu, ça n'est pas rien. Deuxièmement, les régionales. Vous pouvez gagner les régionales dans le système politique tel qu'il est, puisque les listes peuvent se maintenir avec 10% des suffrages exprimés au second tour de scrutin, elles ont le droit de se maintenir. Nous aurons beaucoup de cadres angulaires.
Hein. Cadres angulaires, explication.
Gauche, République en marche, droite, LR et Rassemblement national.
Un second tour, donc, on a quatre choix.
Forces. Avec ça, 30% des voix, vous pouvez gagner. Et le Rassemblement national espère bien réussir à gagner des régions. À la présidentielle, il faut 50,1% des suffrages. Il n'y a que deux candidats qui se qualifient. Vous ne gagnez pas avec 30%. C'est une différence absolument majeur. Alors là où c'est quand même préparatoire à la présidentielle, et c'est très important, c'est oui ou non, est-ce que se construisent des alliances, des barrages, des ententes pour empêcher le Rassemblement national de gagner des régions. Évidemment, ça c'est préparatoire à la présidentielle.
Alors justement, il y a un certain nombre de leaders qui ont dit que le Front républicain était mort. Et d'autres qui ont commencé à parler d'une nouvelle version du Front républicain, fusion technique.
C'est-à-dire,
en gros, au lieu d'avoir le retrait pur et simple d'une liste, comme on a pu y assister avec Christophe Castaner en PACA, comme on a pu y assister dans les Hauts-de-France, simplement avoir que la personne qui arrive en troisième, avec mettons 17%, et où avec un Front National, imaginons à 22, un LR à 19, eh bien, qu'il y ait une négociation, finalement, parce que c'est une élection à la proportionnelle, et qu'on présente, non pas un Front Républicain en se retirant, mais qu'on négocie pour avoir une liste et finalement une majorité régionale qui ressemble au vote et qui fasse en sorte qu'il n'y ait pas des gens qui sont zappés pendant 6 ans. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne voie de négociation ou est-ce que vous trouvez que ça va faire manipulation politicienne vis-à-vis des gens?
C'est ce que proposait notamment Stéphane Séjourné sur l'antenne de France Inter.
Gabriel Attal, et en gros, ce qui est l'idée de l'exécutif, c'est-à-dire de pousser, on peut très bien imaginer dans le Grand Est, qui se passe entre les LR et la République En Marche.
Une alliance LR-République En Marche.
Absolument. On peut imaginer que dans d'autres endroits, en Bourgogne-Franche-Comté, il se passe une alliance cette fois-ci à gauche, de manière à faire ce barrage sans que les gens se retirent purement et simplement.
Antoine Bressel,
vous croyez que c'est ça l'avenir?
On voit en tout cas, là, il y a 5 régions où soit dans les sondages, le RN est en tête, soit dans la marge d'erreur au second tour pour regagner la région. Donc il y a 5 régions qui sont potentiellement gagnables par le Rassemblement National. C'est sûr que c'est largement problématique, mais pour répondre à votre question, je pense que à force de présenter aux électeurs comme projet seulement le fait de faire barrage au Rassemblement National, je suis pas certain que ça pousse forcément les gens à aller voter et à pouvoir s'engager.
Mais ils le disent pas pour l'instant. Ils attendent le premier tour. C'est nous qui en parlons.
Oui, bien sûr.
Mais sur le terrain, chacun dit on y va, on ne parle pas de ce genre de choses.
Oui, c'est sûr.
Jérôme Jaffray.
Oui, c'est la moindre des choses quand même que des listes qui se sentent condamnés à être troisième ou quatrième, ne disent pas tout de suite, on va être éliminé, ne votez plus pour nous, votez pour ceux qui ont des chances. Je ne crois pas une seconde à ces fusions techniques, à la vérité, ça ne se pratique pas. Soit vous avez des fusions à la proportionnelle, c'est ce que fera la gauche, entre ces différentes listes pour le second tour, quelques cas entre La République En Marche et les Républicains, c'est possible, et on voit bien que le RN, jamais, il est toujours isolé, toujours tout seul. Ce qui est intéressant, vous l'avez dit, Nathalie Saint-Cricq, ça vient de Stéphane Séjourné, ça vient de Gabriel Attal, ça vient d'En Marche. Et c'est préparatoire au second tour de la présidentielle, dans une hypothèse Macron-Le Pen. Ça signifie que, avec cette proposition de représentation minimale de ceux qui feront barrage au Rassemblement National, quelque chose sera possible l'année prochaine à la présidentielle. C'est ça le message subliminal que je reçois.
Une coalition, en fait, c'est ça que tu veux dire ?
À d'autres termes, ceux, par exemple, qui clairement appelleront à voter contre Marine Le Pen au second tour de la présidentielle, pourraient ne pas se voir opposer dans leur circonscription, s'ils sont sortants, des candidats de la majorité.
D'accord.
C'est comme ça qu'il faut entendre la chose.
Parce qu'il y a aussi,
c'est un ballon envoyé à un an de distance. Alors un ballon envoyé à un an de distance, est-ce qu'il atterrit?
Mais ce qui est très intéressant dans ce que vous dites, c'est
Françoise,
qu'au fond, c'était un peu l'une des hypothèses qui aurait été possible en 2017, au moment de la victoire d'Emmanuel Macron, de dire à ceux qui votaient pour lui, on fait une coalition. Et il a, au fond, gouverné, présidé, très très seul. Est-ce que vous pensez que vous, la solution...
Oui, mais il a débauché des personnes de gauche et de droite pour former ses gouvernements.
Oui, mais il a fait un parti, il n'a pas fait la coalition avec une partie de la droite modérée, une partie du Parti Socialiste. Est-ce que vous pensez que ce qui se prépare pour l'année prochaine, c'est au fond ce qu'il n'a pas voulu faire la première fois?
Très franchement, le drame de la présidentielle telle qu'elle est devenue sous la Ve République, c'est « je gagne, je dirige seul le pays, je fais élire une majorité qui me soutient ». Et alors, comme le président Macron ne sera pas rééligible, car avec la réforme de 2008, on ne peut pas accomplir plus de 2 mandats, je n'écarte pas de grandes réformes politiques qu'il fera pour son successeur, et pas pour lui-même s'il arrive à être réélu. Par exemple, je n'écarte pas l'hypothèse de l'installer la proportionnelle après son élection et après les législatives qui suivront et qui lui auront assuré au scrutin majoritaire une majorité de soutien. La proportionnelle pour la suite, c'est une grande réforme politique, mais dont on voit bien que les présidents en place n'ont jamais envie de le faire,
même s'ils l'ont
sauf
promis.
Quand ils rentrent dans la défaite, comme François Mitterrand en 1986, lui qui avait intérêt à pousser le Front National de l'époque pour casser la droite.
Mais on n'a pas répondu à la première question, c'est le Front Républicain, il existe toujours ou pas? Est-ce que définitivement il est mort? Est-ce que Stéphane Séjourné a raison de s'exprimer comme il le fait, ce conseiller d'Emmanuel Macron?
Ben, ce qui est sûr, en tout cas, c'est
Antoine Bressel.
Les partis sont pas du tout d'accord sur la position à adopter par rapport à ce Front républicain, par rapport à ces alliances de second tour. Par exemple, on avait quand même Éric Coquerel qui d'un côté dit le Front républicain n'est ni tactiquement ni stratégiquement efficace. On a Guillaume Pelletier qui dit le Front républicain représente une imposture. Et finalement, il y a seulement le PS et le PCF qui sont clairement dans une logique de désistement pour le Front républicain à l'ancienne, finalement.
Mais l'opinion publique, parce que finalement, les politiques, c'est une chose. L'opinion publique, souvent, et vous l'avez dit depuis le début de cette émission, n'écoute plus religieusement les politiques. Donc, où elle se situe aujourd'hui, cette opinion publique?
L'opinion publique, alors si on enjambe là, les régionales et qu'on parle des sondages de la présidentielle, globalement, dans une hypothèse de second tour entre Le Pen et Macron à l'heure actuelle, que vous prenez l'électorat France Insoumise, que vous prenez l'électorat PS, que vous prenez l'électorat ELV ou que vous prenez l'électorat LR, vous avez globalement moins d'un électeur sur deux de premier tour qui dit qu'il votera pour Emmanuel Macron au second tour dans l'hypothèse d'un duel contre Marine Le Pen. Donc, le Front républicain, ça va faire bientôt 20 ans depuis 2002. C'est quand même, je pense, problématique au bout d'un moment pour les partis politiques de qui ne sont pas le Rassemblement national, de se retrouver toujours dans la même situation où ça devient quasiment le sujet de discussion numéro un.
Oui.
C'est peut-être plus dans les propositions qu'ils auraient à faire à côté de ça qu'il faudrait qu'ils se concentrent.
Jérôme Jaffray, d'un mot, puis Nathalie Saint-Cricq.
D'un mot simplement, il y a deux régions qu'il faut suivre de ce point de vue. C'est d'abord Provence-Alpes-Côte d'Azur. Est-ce que la liste de gauche conduite par un écologiste se retire au second tour pour laisser face à face une chance à Renaud Muselier de battre Thierry Mariani?
C'est la condition sine qua non.
Je crois qu'en l'état actuel, sauf erreur majeure des sondages, c'est effectivement la question. Donc là, c'est une décision lourde de la gauche. Et effectivement, le Parti Socialiste et le Parti Communiste, mais ça représente quand même encore quelque chose. On dit que pour eux, c'était clair, qu'ils prendraient leurs responsabilités, la formule annonce tout.
Oui.
Et puis, il y a la région Bourgogne-Franche-Comté également qui est importante, car là, l'hypothèse qu'on peut avoir, c'est de savoir si la présidente socialiste sortante, Marie-Guide Dufay, a pris le Parti communiste sur sa liste au premier tour, et le Parti communiste n'acceptera évidemment aucune fusion avec la liste de La République en marche. Donc, la question qui se posera, c'est le retrait pur et simple de La République En Marche au second tour pour empêcher la conquête de la région par le Rassemblement National. Là aussi, on voit bien que c'est préparatoire à la présidentielle de l'année prochaine. C'est inciter les électeurs de gauche à dire « ne nous trompons pas, il y a des priorités absolues dans
notre
République ».
Mais ça, on peut l'imaginer. On peut imaginer le parti présidentiel se retirer d'une région et du coup passer la main. Le signal politique, la charge symbolique serait forte.
Françoise Fressos rappelait que Emmanuel Macron n'a pas construit une gigantesque coalition en 2017, ni renouvelé profondément la vie politique. Je pense que ne pas avoir d'élus de conseillers régionaux en Bourgogne-Franche-Comté ne devrait pas empêcher le président de la République de dormir.
Et accessoirement, favoriser le Rassemblement National, c'est pas terrible. Est-ce que vous pensez que les scores relatifs de Laurent Wauquiez, de Xavier Bertrand, de Valérie Pécresse, à ce scrutin régional, sera quelque chose qui peut peser dans le mode de désignation ou de départage, comme dirait Gérard Larcher, du candidat de droite?
Ça vous fait sourire, Antoine Bressel?
Au point où les Républicains...
Je suis désolé. Ou alors, il faut attendre l'IFOP pour pouvoir savoir.
Mais c'est ça, mais on a l'impression que c'est limite l'horoscope qui va permettre de départager le candidat. Donc, c'est sûr, les régionales vont être un moyen de jauger les différents potentiels candidats à la prochaine présidentielle. Les scores de Xavier Bertrand, les scores de Valérie Pécresse...
C'est une sorte de primaire pour la droite.
Il y a trop de primaires ou pas assez de primaires dans le cas de la droite, mais c'est sûr qu'en tout cas les régionales, ils vont scruter et on va scruter les résultats de Xavier Bertrand, de Valérie Pécresse.
Jérôme Jaffray n'a pas l'air convaincu.
L'hypothèse principale, c'est celle du surplace, c'est-à-dire que ça ne servira à rien et que pas davantage d'ailleurs que le sondage qui est prévu.
Pourquoi vous dites ça?
Parce que si les trois se font réélire. Ma foi, vous pourrez difficilement dire.
Pécresse,
il y en a un, il est trois possibles candidats qui sont tête de liste régionale.
Il y en a un qui pourra dire je suis le rempart anti-Rassemblement national.
Celui
par
qui court des risques
à
travers les derniers sondages, c'est Xavier Bertrand.
Ah oui?
Parce que, Xavier Bertrand, imaginons qu'il soit réélu président de la région des Hauts-de-France. Très bien. Mais imaginons qu'il ait été devancé au premier tour par la liste du Rassemblement national, alors que dans leur région, Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez seront 10 points, 15 points devant la liste du Rassemblement national.
D'accord.
C'est un affaiblissement de sa position. Ce sera exploité dans le parti, par tout le Parti Républicain, par tous ceux qui ne souhaitent pas Xavier Bertrand. Donc il court, lui, un vrai risque en la matière. Donc pour la droite, si vous voulez, le choix est quand même un choix qui est extrêmement difficile à établir sur la base des sondages. À un moment donné, il faudra faire voter un corps électoral pour décider qui
est le candidat. Vous êtes sûr de ça? Il n'y aura pas de candidat naturel.
Est-ce que c'est la fin, non, malgré tout, du processus des primaires? On sent bien qu'en France, ça ne marche pas très bien. Les Verts, malgré tout, continuent à vouloir en passer par une primaire. Hein. Normalement, elle est prévue en septembre. Mais on voit bien qu'à droite
général,
et à gauche...
Elle est assassine chez eux.
Exactement. Mmh. Et on voit bien qu'à droite à gauche, on se dit que ce système-là ne fonctionne pas. Pourquoi ça n'a pas marché en France, les primaires? Pourquoi ça marche dans d'autres pays, mais pas dans le nôtre?
Antoine Bricel.
C'est pas que ça ne marche pas, mais en tout cas, ça a contribué à élire des candidats, que ce soit du PS ou que ce soit des Républicains en 2017, qui... était sur une position différente de ce que l'on pensait être auparavant quand ça aurait été le candidat désigné dans les formes traditionnelles.
Exemple.
Normalement, enfin, Alain Juppé, c'était le candidat qui aurait dû sortir normalement des Républicains, et finalement, on s'est retrouvé avec François Fillon. Ça contribue à écarter finalement la base. Finalement, on avait un PS qui ressort avec un candidat beaucoup plus à gauche, un candidat des Républicains avec un candidat beaucoup plus à droite que prévu, et c'est ce qui a créé cette grande ouverture pour Emmanuel Macron.
Entre, donc, c'est notre système partisan qui ne permet pas un bon fonctionnement des primaires.
En tous les cas, c'était. Ça a mis au grand jour, finalement, des réalités de la famille politique socialiste et de la famille politique des Républicains qui étaient un peu ignorées jusqu'alors. Et c'est ce qui a permis à l'heure actuelle à cette époque...
Aujourd'hui, le problème, c'est que vous ne pouvez... Les partis sont à ce point affaiblis qu'ils ne peuvent pas refaire une primaire ouverte à des millions d'électeurs. Mmh. Quels sont les millions d'électeurs qui iraient voter pour désigner le candidat des Républicains? Il y en avait 4 millions en 2016 pour le choix entre Fillon, Juppé et Sarkozy. Ça, c'était une sacrée bataille. L'explication d'ailleurs, c'est que si on a choisi le plus à droite, c'est que les électeurs droite étaient sûrs de leur victoire en novembre 2016 et qu'ils voulaient donc imposer une idéologie. En janvier 2017, les électeurs socialistes étaient tellement sûrs de leur défaite qu'ils voulaient eux imposer le candidat le plus à gauche possible pour préparer l'opposition. Voilà aussi le contexte politique joue.
On va bientôt passer à la dernière année du quinquennat, puisque malgré tout, on n'y est pas encore en 2022. Mais d'abord, François Fressoz.
Mais peut-être avant, un petit coup de projecteur sur la gauche à l'occasion de ces régionales. On voit des listes dans toutes les configurations possibles. On voit quand même une compétition écolo-socialiste forte. Qu'est-ce qu'il faudra retenir de ces élections régionales?
Antoine Bricel.
Ce qu'il faut retenir, je pense, c'est qu'il y a une seule région où on n'a pas une candidate européenne, enfin, candidate ou candidat Europe Écologie Les Verts qui est tête de liste. Donc, dans cette opposition qu'il y a entre Europe Écologie Les Verts et Parti Socialiste pour la composition finalement d'un grand pôle social-écologiste, parce que quand vous comparez les électorats Europe Écologie Les Verts et les électorats Parti Socialiste sur les grands enjeux, il n'y a aucune différence finalement entre ces deux partis-là. Mm-hmm. Et dans le mano à mano qui se joue, le Parti Socialiste et l'Europe Écologie Les Verts, on sent que c'est plutôt Europe Écologie Les Verts qui tend à avoir maintenant une position plus importante que ne l'a le Parti Socialiste.
On pourrait imaginer une alliance, une coalition, quelque chose comme ça?
Mais en tout cas, si c'est en termes électoraux...
Ça fait rire, Nathalie Saint-Cric, cette question, je m'excuse. Elle est si absurde. Mais s'ils ont les mêmes préoccupations et qu'ils sont prêts à se retrouver sur les enjeux les plus essentiels...
En fait, il faut différencier l'appareil partisan, il faut différencier les électorats. Entre les sympathisants d'Europe Écologie Les Verts, les sympathisants du Parti Socialiste, en termes de positionnement, que ce soit sur les questions économiques, que ce soit sur les questions culturelles, il n'y a quasiment aucune différence. Après, il y a des différences qui sont mises en scène par les partis parce qu'ils veulent justement se différencier l'un de l'autre. Mais au sein de l'électorat, c'est quasiment la même chose.
Jérôme Jaffray, vous vouliez compléter?
Oui, d'un mot simplement, mettons-nous un an en arrière, les écologistes avaient apparemment la capacité de gagner des présidences de conseils régionaux. On pouvait penser que dans 3 ou 4 régions, ça n'est plus du tout le cas. Les écologistes sont affaiblis depuis un an, d'abord parce que les thèmes autour de la Covid sont très éloignés, évidemment, et on est sur sécurité, souveraineté, santé, c'est pas les thèmes dominants de l'écologie politique. Et puis, il y a eu aussi des erreurs chez les écologistes qui ont été mises en avant, évidemment, par leurs adversaires, une faiblesse, et puis les écologistes...
Mais vous oubliez le Pays de la Loire, quand même, Pays de la Loire...
Pardon?
Vous oubliez les Pays de la Loire. Mathieu Orphelin a toutes les chances.
Il y a une petite chance dans les Pays de la Loire. Mais là, par exemple, on peut s'attendre à une fusion entre La République En Marche et Les Républicains qui rendrait extrêmement difficile la victoire de Mathieu Orphelin, le tête de liste écologiste dans cette région, dont je rappelle au passage qu'il était député La République En Marche.
On est d'accord.
En 2017, ce qui est quand même un parcours...
Mais expliquez-nous
la dynamique. C'est un proche de Nicolas Hulot, donc il a quand même un passé écolo net.
Réexpliquez, s'il vous plaît, Jérôme Jaffray, la dynamique rompue après les européennes.
Donc, je dis, il y a eu le Covid, il y a eu un certain nombre d'erreurs des écologistes, et puis la force des écologistes que Yannick Jadot avait portée aux élections européennes, c'était de dépasser les frontières strictes de la gauche. Tandis que là, on a l'impression que le seul vrai but des écologistes, comme le disait de façon sous-jacente Antoine Bristiel, c'est de tuer le Parti socialiste dans des affrontements de premier tour, en l'écrasant et en, pour créer la force sociale-écologiste au profit des écologistes, et que du coup, ils ont oublié ce message. Or, prendre le leadership de la gauche, ça ne passionne pas une partie des gens qui se préoccupent des thèmes écologistes et qui du coup restent en dehors.
Alors justement, pour non pas ricaner, mais poursuivre la question d'Ali Badou, est-ce que c'est envisageable pour la présidentielle, par rapport à ce qu'on voit, que le Parti socialiste se passe de candidat ? On n'a pas l'impression qu'il y ait quelqu'un qui émerge et que de laisser le leadership ouvert. Et deuxièmement, est-ce que finalement tout ça n'est pas un peu vain quand on voit que tant que Jean-Luc Mélenchon sera là et acceptera, comme le dira Arnaud Montebourg, refusera toute alliance avec personne, la gauche, de toute façon, est déjà fichue dès maintenant. Pardon, mais...
Ça vous laisse quoi, Antoine Bristiel?
En fait, je pense qu'il y a deux stratégies différentes. La stratégie de Jean-Luc Mélenchon, en tout cas en 2017, c'était d'être sur quelque chose de beaucoup plus transversal et pas du tout dans une logique d'union. Alors même si dans les faits, son gain électoral entre 2012 et 2017, il le fait plutôt sur les déçus du Parti Socialiste que dans les fachos pas fâchés, comme il les appelle, ou des potentiels abstentionnistes, potentiels électeurs du Rassemblement National, il est vraiment coincé entre ces deux stratégies. D'un côté, vouloir renouer avec un électorat plus populaire, abstentionniste, peut-être proche du Rassemblement National, et vouloir également parler à un public de gauche plus traditionnel qui serait peut-être tenté de voter Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts. Donc c'est pour ça qu'on est dans une stratégie complètement différente. Par contre, Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts, il n'y a finalement rien qui empêche de faire une alliance entre ces deux partis.
Oui, mais alors du coup, coincé entre Mélenchon et les Verts, la gauche classique, la gauche socialiste, elle est en voie d'extinction.
Qu'est-ce qu'il faut, le candidat, on attend Anne Hidalgo, est-ce qu'on peut, ma question initiale, c'est, il y en a 25 dans la même tout à l'heure, donc je refais de l'ordre, est-ce que le Parti Socialiste peut se mettre derrière, par exemple, Yannick Jadot, si c'était lui qui était désigné, ou est-ce qu'il est impératif pour que le parti prospère, continue à exister, d'avoir un candidat?
Si le Parti Socialiste donne le sentiment que son unique but est sa survie, ça ne lui assure pas un impact électoral très grand. Si deuxièmement, vous attendez qu'il y ait une demande très forte de candidats, c'est-à-dire que le pays se tourne vers Anne Hidalgo en souhaitant qu'elle veuille bien être candidate, ça ne se produira pas. C'est l'offre qui crée la demande. C'est un élément fondamental qu'Emmanuel Macron illustre totalement en 2017. Qui pouvait penser un an avant qu'Emmanuel Macron irait vers ce score? C'est l'offre qui crée la demande. Si vous n'avez personne qui fasse l'offre et qu'Anne Hidalgo ne joue pas ce rôle franchement et dise « j'attends de voir ce que donneront les sondages à l'automne », eh ben les sondages à l'automne donneront la même chose que les sondages aujourd'hui, c'est-à-dire un score extrêmement faible. Donc, à la fois, éviter de n'avoir qu'un seul but, la survie, et que quelqu'un ose proposer véritablement une offre politique. Parce qu'il y a une place entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Il y a une partie importante du pays, de l'ordre de 20% des voix, qui peut se reconnaître dans cette offre.
Mais comment expliquez-vous que personne n'ose?
Est-ce
que c'est fichu d'avance ou pas?
En partie, si vous voulez, parce qu'il y a une crise de la gauche qui dépasse ces partis. C'est une crise extrêmement profonde. Elle est totalement décalée par rapport à la société et par rapport au débat d'aujourd'hui. Je décrivais les groupes en disant le groupe de désespérance. Or, la gauche, traditionnellement, c'est l'espérance et le progrès. C'est ces thèmes fondamentaux. Le délitement de l'autorité, l'inquiétude sur la souveraineté, etc., c'est pas les thèmes de la gauche. La gauche, c'est l'ouverture aux autres, l'ouverture à la société. Et le juste milieu, c'est pas non plus ce que veut proposer la gauche. Et Emmanuel Macron est totalement sur ce créneau. Donc, il y a une difficulté à occuper un espace idéologique. Parce qu'il faut que vous occupiez un espace idéologique pour créer un espace politique. Aujourd'hui, Mélenchon continue d'incarner quelque chose dans l'antisystème. Les socialistes et même les écologistes, alors la génération climat existe, les écologistes portent quelque chose, mais ils n'occupent pas tout l'espace idéologique qui peut mener à un score fort à la présidentielle.
Mais est-ce qu'avec Jean-Luc Mélenchon, il reste de la place? C'est ce que disait Françoise. Est-ce qu'il n'y a personne? Parce que les gens anticipent que du côté PS vert, il n'y a pas suffisamment. Vous avez dit 20%, c'est pas suffisant. Est-ce que...
Ah, 20% à la présidentielle, ça n'est pas négligeable.
Non.
Mais parce que notre système est devenu à raboter tellement toutes les forces que 20% devient un ticket possible de qualification. Mais je ne crois pas à cette addition des 20% à l'état actuel des choses, c'est vrai.
Alors parlons quand même de celui qui, du coup, apparaît à vous écouter en position de force, Emmanuel Macron. Il a repris quelques points dans les sondages.
Il y en a deux quand même en position de force. Hein.
Oui, mais en l'occurrence, lui, nous ne l'avons pas cité depuis,
depuis le début de l'émission, quasiment.
Et ce qui est intéressant, c'est de voir Antoine Bristiel qu'il a... d'assez bons sondages un an avant la présidentielle. Comment est-ce qu'on peut analyser sa base de soutien? Est-ce qu'elle reste importante? Est-ce qu'elle reste trop faible pour lui garantir un avenir assuré?
Disons que dans le système d'élection présidentielle, d'un scrutin uninominal majoritaire à deux tours, où vous arrivez ensuite potentiellement contre le Rassemblement national, il a un socle de premier tour suffisamment solide pour arriver, enfin, très probablement, en tout cas probablement au second tour. Quand on regarde les différentes intentions de vote depuis maintenant quasiment 10 mois, il n'y a quasiment aucune évolution. Et il a un socle autour de 25% du corps électoral qui reste extrêmement stable. Ensuite, quand on regarde...
Donc le duel Macron-Le Pen n'est pas un délire. C'est malgré tout quelque chose
qui est installé. Non, après, il peut se passer beaucoup de choses. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, si on analyse la situation à l'heure actuelle, il a 11 points d'avance sur le troisième qui est Xavier Bertrand. Donc c'est quand même une marge qui est assez importante. Ensuite, quand on regarde le taux de satisfaction dans son action, on voit qu'aujourd'hui, on est autour de 40% de satisfaction, alors que c'était descendu autour de 20% dans la période des Gilets jaunes. Et pour souvenir...
40%?
Oui, pour souvenir, à la même époque, Nicolas Sarkozy, c'était 29% et François Hollande, 16%. Et avec 29% quand même à cette époque-là pour Nicolas Sarkozy, il avait failli être réélu quand même.
Donc malgré les épreuves aussi considérables qu'il a rencontrées au cours de son quinquennat, il reste malgré tout, Jérôme Jaffray, crédité d'une sorte de satisfaction.
Disons que la crise des Gilets jaunes a eu finalement un effet positif sur le président, si curieusement que ça puisse paraître. Elle l'a vraiment ébranlé en profondeur et tout le système politique. Mais si, par exemple, le président a choisi le quoi qu'il en coûte pendant la crise du Covid, c'est un enfant des Gilets jaunes, je dirais. C'est parce qu'il y a eu les Gilets jaunes.
Vous pensez profondément ça? Vous pensez vraiment
bien
que c'est l'épreuve des Gilets jaunes qui entraîne le
quoi qu'il en coûte? Bien sûr, je pense que ça a obligé Emmanuel Macron à changer son regard en profondeur sur la société française et éviter de brutaliser le pays et d'accompagner le pays. De même, une prudence excessive sur la politique vaccinale qui a eu lieu en décembre, janvier, avant vraiment de se lancer à fond, vient au fait qu'on ne brutalise pas s'il y a des anti-vaccins, on fait attention, on n'impose pas la vaccination. Et pour finir, je dirais qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron, il est indexé sur la réussite précisément de la politique vaccinale. En partie, sa cote de popularité suit allègrement la courbe des vaccins, parce que il a quand même eu l'audace et la fermeté à un moment donné d'imposer, y compris aux scientifiques, le fait qu'on allait vers le déconfinement, qu'on fixait un calendrier, qu'on accélérait sur la vaccination et qu'on bougeait les choses. Alors, c'est-à-dire ce qu'on peut attendre d'un chef.
Vous invoquez la politique vaccinale, mais maintenant on est dans presque l'après et tout le monde se dit qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Est-ce qu'il doit continuer les réformes? On parle de la réforme des retraites. La gauche et les syndicats disent surtout pas. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il peut faire encore d'ici la fin du quinquennat?
La problématique, c'est qu'il a un peu pris entre deux feux parce qu'il s'est construit sur cette posture du réformateur.
Donc, révolutionnaire même, c'était le titre de livre de candidat.
Un révolutionnaire réformateur qui ne fait plus de révolution ni de réforme, ça pose problème. Mais d'un autre côté, dans cette période où les gens ont été quand même usés par ce qui s'est passé avec l'épisode du Covid. Donc forcément que c'est extrêmement compliqué de mettre en place des grandes réformes dans le laps de temps qui reste jusqu'à la prochaine présidentielle. Et sur la réforme des retraites en particulier, il y a 6 Français sur 10 qui se disent opposés à ce qu'on remette en place cette réforme. Et même 7 sur 10 opposés sur le fond de ce qu'il y avait dans cette réforme du recul de l'âge de la retraite. Et 7 sur 10 également qui disent qu'ils n'hésiteront pas à se réengager dans une sorte de mouvement social d'opposition à une réforme des retraites. Donc, est-ce qu'Emmanuel Macron veut prendre ce risque?
Pourtant, l'Assemblée l'avait adopté en première lecture, il y avait eu le 49-3 et... On pourrait se dire que la mécanique était enclenchée, qu'on pourrait la reprendre.
Mais c'est plus des réformes que l'on fait en début ou en milieu de quinquennat plutôt qu'à la toute fin, surtout si on a la volonté de se représenter comme c'est le cas pour Emmanuel Macron.
Après, il y a une question aussi sur le style de gouvernance d'Emmanuel Macron. Est-ce que son pouvoir, ça va sans doute être un peu excessif, mais est-ce que son pouvoir n'est pas un peu solitaire? C'est-à-dire, on se rend bien compte qu'il a des ministres qui ne disent jamais rien, qui prennent aucune décision. Il incarne toutes les annonces, il incarne tout ce qui est fait. Est-ce que ça passe très bien auprès des Français, ou est-ce que ça peut le sanctionner à un moment donné ?
Écoutez, c'est l'excès de la présidentialisation de la Ve République et du quinquennat qui a confondu finalement les fonctions de président et de Premier ministre. Et quand un Premier ministre prend trop de place, eh ben Emmanuel Macron, il a éjecté le Premier ministre qui prenait trop de place pour en mettre un qui tienne mieux la position que souhaitait Emmanuel Macron en la matière. Alors, en même temps, je dirais que le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'effectivement, s'il est dans l'immobilisme, le risque qu'il a, c'est que l'année prochaine, ce soit Giscard Mitterrand 81.
C'est-à-dire le
Giscard qui est vu comme un président solitaire dans l'immobilisme, l'arrogance, la hauteur, et que ce soit Marine Le Pen qui incarne la force tranquille de 1981, mise en 2022, la recherche de l'apaisement. Il faut donc bouger. On ne peut pas ne rien faire. Cette situation, elle est dangereuse parce qu'elle paraît satisfaisante, parce qu'elle paraît qu'avec 40% de popularité, c'est le double, évidemment, des prédécesseurs, en particulier de François Hollande, mais ça ne dit rien des intentions de vote, la popularité, on le sait bien. Giscard était populaire jusqu'à 2 mois avant sa défaite. Ça le dit. Et on voit bien aussi qu'à partir du moment où le président du MEDEF dit « Ah ben la réforme des retraites, surtout pas avant la présidentielle », car ils ne veulent pas, les entreprises ne veulent pas casser la reprise. Et donc, vous êtes dans la situation où il faut transformer, annoncer des tas de transformations qui se feront juste après 2022 s'il est réélu.
Il reste poignée de minutes.
La question, qui dicte presque toutes les missions, ce désenchantement, est-ce que vous pensez que ça peut se traduire en 2022 par une victoire de Marine Le Pen ?
Antoine Bressel.
Disons que en 2017, la victoire de Marine Le Pen, c'était quelque chose d'impossible. Là, c'est quelque chose qui est improbable. C'est-à-dire que...
Improbable ?
Improbable. C'est-à-dire que, bon...
Vous avez publié une étude, d'ailleurs, ou co-publié une étude qui s'intitulait l'évaluation du risque Le Pen.
Oui, c'est ça. Mais on se rend compte qu'il y a 3 points qui sont quand même plus inquiétants que ce qu'ils étaient auparavant. Tout d'abord, la dédiabolisation de Marine Le Pen au sein de la société française. C'est des niveaux qui n'ont jamais été atteints auparavant. La seconde chose, c'est qu'il y a un vrai rapprochement entre l'électorat Rassemblement National et l'électorat des Républicains. Et donc, on pourrait avoir des sortes de convergences de second tour qui n'existaient pas forcément auparavant. La digue, finalement, entre la droite classique et l'extrême droite, en tout cas dans l'électorat, elle est beaucoup moins importante qu'auparavant. Puisque l'on remarque...
C'est un euphémisme ou c'est une manière de dire que la digue a sauté entre l'électeur LR et celui qui vote Rassemblement National ?
Je crois que c'est à peu près 3 électeurs sur 10 potentiellement Xavier Bertrand, qui au second tour disent qu'ils voteront pour Marine Le Pen en cas de configuration Le Pen-Macron. Donc on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus important qu'auparavant. Et la troisième chose, c'est que c'est aussi la particularité, encore une fois, des institutions françaises, c'est qu'on a cette possibilité de se retrouver à nouveau avec un duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen au second tour. Et dans les faits, il y a quand même, on parlait des émotions tout à l'heure, une vraie colère qui s'exprime au sein de la population envers Emmanuel Macron, et même qui va parfois jusque, bon, des choses qui peuvent être extrêmement virulentes, comme on a pu le voir avec l'épisode de la GIF, par exemple.
Il reste très peu de temps.
Très court. On a vu qu'elle a remonté, Marine Le Pen, la pente du débat qui était ratée la dernière fois. Quels sont ses talons d'Achille actuels, si vous deviez en trouver 3, Jérôme Jaffray ?
À toute allure. La question centrale de l'année prochaine, est-ce que ce sera « peut-on battre Emmanuel Macron ?» ou veut-on vraiment élire Marine Le Pen ? Si vous passez d'une question à l'autre, vous ne réagissez pas de la même façon. Deuxième talon d'Achille possible, c'est Marine Le Pen déchire la société française si elle est élue. C'est-à-dire là, à ce moment-là, le risque d'affrontement dans la société française croît, même si la candidate essaye de jouer l'apaisement. À ce moment-là, on montre les portraits de tous ceux qui l'entourent, etc. C'est plus inquiétant. Troisième risque, c'est l'ostracisme de la France dans l'Union européenne qui suivrait une élection de Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'au fond, la France est au banc de l'Europe à ce moment-là. Et ça, c'est un choix que le pays n'a peut-être pas envie de suivre.
On va devoir en rester là. Donc, Nathalie, vous ne savez pas qui vous aurez en plateau, qui seront les 2 candidats finalistes de l'élection présidentielle,
lorsque
vous arbitrerez le
débat. Mon cher Ali, je pense que je serai dans mon canapé ce jour-là et qu'il y aura des jeux à la place.
Je n'en ai pas sûr.
Vous n'aurez donc pas réponse à cette question. Merci messieurs, c'était passionnant. Merci. Antoine Bressel, Jérôme Jaffray, merci d'avoir été nos invités. Merci à toutes les 3 et merci à vous de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Rendez-vous dimanche prochain.